Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
Bienvenue à cette édition du journal avec à la une. La Coupe du Monde et l'élimination hier de la RDC. Une défaite en contre 2 face à l'Angleterre en 16e de finale. Malgré cela, beaucoup de Congolais saluent le parcours historique de leur équipe nationale. Dans l'actualité aussi, ce plaidoyer de l'ONG AICED pour l'adoption d'un traité mondial ambitieux contre la pollution plastique. Elle a adressé une lettre ouverte en ce sens au ministre congolais de l'Environnement. Cela alors qu'une délégation de la RDC participe à la réunion du comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique à Nairobi au Kenya. Comme invité le docteur Médard Kabuyaya, chirurgien à l'hôpital Hill Africa de Goma, nous parlerons de cette opération visant à donner gratuitement le sourire aux enfants nés avec une fente labiopalatine ou bec de lièvre, une initiative que ce centre mène avec l'ONG Smile Train. Bonjour à toutes et à tous. Coupe du Monde 2026, la RDC est tombée, les armes à la main devant l'Angleterre hier, mercredi 1er juillet à Atlanta Stadium aux États-Unis. Le pays des Léopards est éliminé en 16e de finale après sa défaite face à l'Angleterre sur le score de 1-2 et quitte donc la compétition. Malgré cette élimination, la plupart des Congolais saluent la prestation de leur pays en cette compétition planétaire. Que retenir Blaise Ndongala?
Les poulains de l'entraîneur Sébastien Desabre ont idéalement entamé la rencontre en surprenant les Free Lions dès la 7e minute grâce à une superbe ouverture du score signée Brian Sipenga. Solide, discipliné et dominateur durant la majeure partie de la première période, les Léopards de la RDC ont longtemps cru à l'exploit en contenant les assauts anglais pendant plus d'une heure de jeu. L'expérience du haut niveau a finalement fait pencher la balance en fin de match en faveur de l'Angleterre. L'attaquant vedette Harry Kane a inscrit un doublé salvateur à la 75e et à la 86e minute, renversant ainsi la situation. Malgré la frustration légitime de se faire renverser à toute fin de partie, la RDC quitte cette compétition la tête haute, souligne la majorité des Congolais.
Il faut féliciter nos Léopards. On ne pensait pas qu'on pouvait arriver ici. Nous avions des ambitions de participer. Mais en participant, nous sommes qualifiés au 16e de finale. À ce stade, on ne doit pas être dur avec nos joueurs ou avec notre équipe. On n'a pas été ridicule.
Pour leur grand retour sur la scène mondiale après 50 ans d'absence, les Léopards de la RDC ont réussi à franchir la phase des groupes, signant ainsi une performance historique pour le football congolais. L'équipe pose désormais des bases solides pour l'avenir et prouve qu'elle peut rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial.
Nous sommes en Nord-Kivu. L'ONG appuie aux initiatives communautaires pour la conservation de l'environnement et le développement durable. AICED appelle à l'adoption d'un traité mondial ambitieux contre la pollution plastique. Dans une lettre ouverte adressée au ministre congolais de l'Environnement et à sa délégation en mission à Nairobi, l'organisation exhorte les autorités à défendre une position forte lors des négociations en cours. La délégation congolaise participe à une réunion de 4 jours du comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique, rencontre ouverte au mardi à Nairobi au Kenya. Le directeur exécutif de l'AICED souhaite que la RDC joue un rôle actif afin d'influencer les discussions vers un accord contraignant. Il insiste pour que le futur traité prenne en compte non seulement la gestion des déchets, mais également l'ensemble du cycle de vie et de plastique. Faustin Niéboné est au micro de Bernard Denyangui.
La pollution plastique est avant tout un problème de santé publique. Et c'est pourquoi à ce sujet, nous avions rappelé qu'il faut plaider en faveur d'un traité contraignant qui doit aborder la question de pollution plastique tout au long de son cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction des énergies fossiles, traitement chimique, jusqu'à la consommation de plastique, jusqu'à ce que le plastique devienne déchet. Parce que s'atteler seulement à la gestion des déchets, ça ne va pas empêcher qu'on soit intoxiqué par la pollution plastique. Nous avions aussi rappelé qu'il faut soutenir des mesures juridiquement contraignantes visant à réduire la production de plastique parce que le problème doit être attaqué à la source. Et nous pensons que la RDC, pilier de la lutte contre le réchauffement climatique grâce à ses forêts, a une voie unique à faire attendre dans ce traité. Parce que pour la RDC, défendre un traité fort signifie consolider encore son leadership dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi contre la pollution plastique.
Notez que selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, cette rencontre de 4 jours permet aux délégués d'évaluer les progrès réalisés depuis 2022 et d'intégrer de nouvelles propositions. Ces travaux visent à préparer la reprise des négociations formelles du traité mondial sur les plastiques, rencontre prévue en mars 2027, toujours à Nairobi. Le Bureau central de coordination BCECO a lancé hier mercredi à Kinshasa des ateliers d'échange dans le cadre du projet Varsita destiné à réduire les effets du changement climatique sur les populations. Prévu pour 10 ans, ce projet vise également à promouvoir les initiatives innovantes ainsi que le transfert des solutions favorisant l'adaptation au changement climatique. Cette démarche d'adaptation au changement climatique porte notamment sur la gestion durable de l'eau, le développement agricole ainsi que la préservation des ressources naturelles. C'est Forum Paka.
Le projet Varsita résulte d'un partenariat entre le Bureau central des coordinations, l'ONUDI, les Fonds pour l'environnement mondial, le ministère de l'Environnement et Développement durable, ainsi que le ministère de l'Industrie et du Développement de PME. Réunis à Kinshasa pour 2 jours d'atelier, le partenaire travaille en collaboration d'une feuille de route destinée à assurer la mise en œuvre du programme. Le directeur général du BCECO, Alongo Longomba Sylvain, a présenté les grandes orientations de cette initiative.
Les changements climatiques constituent une réalité dans nos vies quotidiennes. BCECO a réussi le financement des fonds pour l'environnement mondial et ces projets impliquent plusieurs parties prenantes. Il y a les services publics, la société civile, les universités, les centres de recherche, les entrepreneurs, le PME, donc une diversité d'acteurs.
De son côté, la secrétaire générale du ministère de l'Environnement, Mbangu Kikumi Pascaline, a salué cette collaboration, estimant qu'elle marque une avancée pour les institutions nationales dans l'accès au financement environnemental.
Pour moi, c'est un honneur d'avoir une institution de la République qui est parmi les bénéficiaires, c'est-à-dire les agences qui doivent mettre en œuvre le projet des fonds de l'environnement mondial, les fonds de Jeff.
Les programmes Varsita bénéficient d'un cofinancement de 22 millions de dollars américains et prévoient la création de 200 emplois.
Faire passer les petits producteurs d'huile de palme de l'informel à des coopératives mieux organisées afin de leur faciliter l'accès à la formation, aux semences améliorées et au financement. C'est l'une des ambitions réaffirmées par les plantations et huileries du Congo, PHC, à l'occasion de la 31e réunion des hauts responsables des pays producteurs d'huile de palme, rencontre tenue récemment à Jakarta, en Indonésie. L'entreprise entend renforcer cette démarche dans ses zones d'exploitation en RDC, notamment dans les provinces de la Mongala, de la Tchopo et de l'Équateur. Monique Gieskes, directrice générale de PHC, explique cette démarche dans cet extrait choisi par Grace Amsati.
En République démocratique du Congo, les plantations et huileries du Congo travaillent directement avec les planteurs partenaires, les communautés qui sont engagées dans la production agricole ici de l'huile de palme. Et les plantations et huileries du Congo ont l'ambition de les structurer et de passer à une production plus ou moins informelle, à une structure autour des coopératives afin de leur donner accès à des formations et leur donner accès également à un matériel génétique performant de pointe, donc des semences améliorées, et de pouvoir leur accorder également notre accompagnement sur les produits, les instruments financiers qui sont disponibles dans le pays. Ici, c'est très très important parce que ici, les producteurs partenaires, nous les appelons comme ça, les agrégés, en tant qu'agrégateurs, nous souhaitons les rendre plus forts et leur faire participer à l'économie des provinces là où ils sont implantés. Et nous allons commencer par les provinces où les plantations et huileries du Congo opèrent déjà.
Direction l'Humanima à présent, le ministère provincial de l'éducation, fonction publique et emploi vient de lancer dans la ville de Kindu une campagne de sensibilisation sur la protection de l'emploi et l'importance de la sécurité sociale du personnel du secteur privé. Les premiers concernés sont les promoteurs des écoles privées. Selon les organisateurs, l'objectif est de sensibiliser, mais aussi de contrôler la bonne application de la législation congolaise du travail dans toutes les entreprises, écoles ainsi que dans les établissements privés agréés de la province du Humanima. Florence Kizalunga nous en dit plus.
Premier à prendre la parole, l'inspecteur du travail, Amissi Zakouani, sensibilise les promoteurs des écoles sur le respect de la législation sociale.
Tout ce que la loi a prévu pour les contrats du travail, les salaires et les documents à viser, les employés doivent respecter ça.
Le chef de division de l'emploi, Joseph Matungulu, est revenu sur la protection de l'emploi dans le secteur privé.
Il y a eu des dérives dans le secteur privé, alors il faudrait savoir comment protéger la main-d'œuvre privée.
Le représentant de la Caisse nationale de sécurité sociale, SANSES, a rappelé l'importance de s'affilier et de verser ses cotisations. Michel Banza.
Notre mission consistait à faire comprendre aux employeurs qu'ils doivent s'affilier, qu'ils doivent immatriculer leurs travailleurs, qu'ils doivent verser ses cotisations et qu'ils doivent respecter le SMIG qui est fixé à 21 500 francs congolais pour le travailleur le moins gradé qui est le manœuvre ordinaire.
Matière bien reçue par le participant, Basselo Beloko venant est l'un d'eux.
On ne connaissait pas comment est-ce qu'il faudrait quand même se prendre pour essayer quoi d'améliorer la vie et la condition de tous les personnels. C'est ainsi que l'année prochaine, nous osons croire que nous allons améliorer.
Notez que près de 200 promoteurs d'écoles privées ont participé à cette session. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous sommes en Ituri à présent. Les rebelles des ADF ont lancé lundi une nouvelle attaque contre le site minier de Pangoï dans le territoire de Mambasa, c'est environ 165 km au sud-ouest de Bunia. Un bilan provisoire fait état de 3 morts, plusieurs personnes enlevées ou portées disparues, ainsi que d'importants pillages. La veille, une autre incursion avait déjà été signalée au village de Tépé. Et face à la progression des assaillants dans plusieurs localités, des centaines d'habitants ont fui leur village. Récit des faits, Issa Crémant.
Selon des sources locales, les combattants ADF ont d'abord attaqué aux environs de 4h du matin lundi une position des FARDC. Les rebelles ont ensuite investi les sites miniers de Pangoï où de nombreux habitants exploitent de l'or. Au moins 3 personnes ont été tuées. Plusieurs autres ont été enlevées et auraient été contraintes de transporter les biens pillés dans les habitations et les commerces. La population a abandonné les sites miniers. Les villages voisins, notamment Makamanda, Lulumo, Soumo et Lianga, sont également en état d'alerte. Des nouvelles attaques, de nombreux habitants fuient leur localité. La veille, dimanche, les ADF avaient déjà mené une incursion au site minier de Tépé où 2 personnes ont été enlevées selon des sources locales. Face à cette recrudescence des violences, les défenseurs des droits humains demandent au gouvernement de renforcer les opérations militaires afin de mettre un terme aux exactions commises par les ADF actifs dans les territoires de Mambasa depuis le début de l'année. Trésor Kapepela.
Nous appelons vraiment les autorités militaires de pouvoir poursuivre l'ennemi parce que l'ennemi est en train de circuler en électro libre sans être inquiété. Et cela a causé un déplacement massif de la population.
Il y a quelques jours, l'administrateur du territoire de Mambasa avait annoncé que les FARDC, avec l'appui des partenaires du gouvernement, préparaient des opérations militaires de grande envergure contre les ADF afin de rétablir la sécurité dans cette partie de l'Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
La nouvelle société civile congolaise du territoire d'Idiofa dans la province du Kwilu déplore l'irrégularité de la desserte en électricité assurée par le barrage hydroélectrique de Kakobola. Son coordonnateur affirme que depuis l'inauguration de cette infrastructure par le chef de l'État en mars dernier, l'électricité est distribuée très rarement à la population en dépit des attentes suscitées par sa mise en service. Il appelle les autorités compétentes à prendre des dispositions pour garantir une fourniture permanente, régulière et de bonne qualité de l'électricité produite par le barrage de Kakobola au profit des habitants de ce coin du pays. Suivez Pipette Arsène Kassiama, coordonnateur de la nouvelle société civile du territoire d'Idiofa.
Le courant Kakobola, c'est un courant qui n'existe que du nom. Depuis l'inauguration du président de la République, nous ne savons pas. Les 3 mois d'essai va de quand jusqu'à quand? Parce que jusque là, nous recevons ce courant rarement de l'estage à gogo. On nous donne le courant pour 1 heure ou 2 heures du temps après ce courant-là se coupe. Nous ne savons pas si c'est un courant ou ce n'est pas un courant. La population d'Idiofa est en train de demander au gouvernement que l'on nous donne un courant stable. C'est ce que nous cherchons à Idiofa. Parce que jusque là, avec Kakobola en question, nous ne voyons pas clair. On dirait qu'un groupe que l'on allume à un moment donné, on éteint. C'est juste 1 heure, 2 heures du temps, c'est fini. Des fois ça vient, des fois ça ne vient pas. Donc maintenant, nous ne recevons que pour 1 heure par jour, pour 1 heure, 2 heures, et c'est fini. D'où la population demande que l'on puisse élargir aussi des poteaux parce que la demande est vraiment forte à Idiofa. Et puis, à notre aussi, que l'on nous donne un courant stable pour que Idiofa puisse se développer.
À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale accueille depuis le 27 juin jusqu'au 7 juillet 2026 donc la première édition de l'Expo Expo Lumumba International Horizon 2030, activité consacrée à la mémoire du tout premier ministre de la République démocratique du Congo après l'indépendance et héros national Patrice Emery Lumumba. Cette manifestation culturelle propose un menu riche et varié, constitué essentiellement des arts plastiques, de la musique, la danse et des arts de la scène. C'est dans le but de mettre en valeur le patrimoine historique et culturel lié à la mémoire du héros national de l'indépendance de la RDC. L'initiateur de cette exposition, l'opérateur culturel Chadwick Kalinga, en parle au micro de Jean-Marc Matwaki.
Le but de l'Expo Lumumba, c'est d'être le vecteur d'expression en fait d'art varié, en commençant principalement par la peinture, mais c'est aussi l'occasion de réconcilier le monde au travers les valeurs d'égalité, au travers les valeurs de dignité qu'en prenait Patrice Emery Lumumba de son vivant. Et donc cet héritage n'a pas de couleur, cet héritage n'a pas de race. L'Expo Lumumba vient pour renforcer ce message-là, dans cette mesure où elle sera une exposition itinérante, en sachant que la première édition commence ici à Kinshasa. Nous trouverons une ville en Europe, nous trouverons une ville dans les Amériques, nous trouverons une ville en Asie, nous trouverons une ville, si possible, en Océanie, pour que, à l'horizon 2030, nous ayons parcouru 5 continents avec ce message fort d'amour pour la race humaine et cette diversité de culture, d'expression culturelle, artistique, partout où nous passerons avec cette expo.
Actualité internationale.
Les manifestations anti-immigrés organisées en Afrique du Sud mardi à l'appel du groupe d'initiatives citoyennes se sont déroulées de manière apaisée. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la police sud-africaine mercredi, se félicitant de l'exercice dans les normes d'un droit inscrit dans la loi fondamentale. Pourtant, des pillages et saccages de magasins ont été signalés dans certaines villes, rapporte Africa News, mais la police dédramatise.
L'invité.
L'ONG internationale Smile Train, littéralement le train du sourire, a organisé lundi à Goma une journée de la famille pour les enfants nés avec une fente labio-palatine. Rappelons qu'il s'agit de ce petit espace au niveau de la lèvre et du palais qui ne s'est pas complètement refermé pendant la grossesse. Pour réparer ces visages gratuitement, l'organisation collabore avec 3 hôpitaux de la place, parmi eux l'hôpital Il Africa. Le docteur Médard Kabuyaya est chirurgien au sein de cet hôpital. Il explique le processus des prises en charge de ces enfants dans ce train chrétien avec Rosalie Savadi.
Professeur Médard Kabuyaya, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi l'objectif de la célébration de cette journée du sourire?
L'objectif de notre journée aujourd'hui, c'était une journée de la famille, là où nous remettons les sourires aux enfants porteurs de fentes et aussi à toute la famille. Et quand nous parlons de la famille, c'est toute la communauté. Parce qu'un enfant né avec fente, lorsqu'il a été pris en charge d'une façon multidisciplinaire, cela donne la joie, pas seulement aux patients, mais aussi à la famille. Et après la famille, c'est la communauté. Et c'est cette joie-là qui nous a réunis aujourd'hui.
Et combien d'enfants ont été réunis aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous avons réuni une affaire de 20 d'enfants qui avaient bénéficié de prise en charge des fentes labio et palatines dans notre ville de Goma. Et ce sont des adultes comme des enfants. Je vis les sourires sur leurs lèvres. Et les parents sont venus témoigner parce que les parents sont complètement satisfaits.
Et comment s'est fait la prise en charge des cas de fente labio-palatine?
Vraiment, pour la prise en charge de la fente labio-alvéolo-palatine, c'est un parcours qui demande une période de la naissance jusqu'à l'âge de 21 ans, là où il y aura plusieurs intervenants, notamment l'obstétricien qui va diriger l'accouchement, les sages-femmes, on aura des psychologues, des nutritionnistes, il y aura des spécialistes en ORL, des chirurgiens maxillofaciales, chirurgiens plasticiens, des logopèdes, des orthodontistes. Et c'est ça qui fait le parcours pour une prise en charge complète et globale.
Qu'est-ce qui est à la base de ces fentes? Pourquoi un enfant né avec une fente labiale?
Il y a beaucoup de facteurs qui favorisent le développement de cette pathologie. Alors nous avons d'abord les facteurs environnementaux. Donc ce qui se trouve dans notre nature, c'est un problème de dénutrition, problème d'alimentation locale qui sont pauvres en acide folique. Nous avons aussi des infections comme la rubéole qui peuvent être à la base on a aussi certains médicaments qui peuvent être responsables. Et à part les facteurs environnementaux, nous avons de l'eau, on a des minéraux partout au Congo, et ce sont des minéraux radioactifs qui peuvent influencer le développement de la fente. Maintenant, il y a aussi des facteurs génétiques. Alors, s'il y a maintenant antécédents de fente dans la famille, donc la probabilité encore que cette famille puisse avoir encore un enfant de fente augmente. Maintenant, il y a des familles là où il y a l'interaction des facteurs environnementaux et des facteurs génétiques. Et c'est ça qui explique cette fréquence des fentes dans nos milieux.
Par exemple, à l'hôpital Île Africa, combien de personnes sont prises en charge pour cette fente labiale?
Ici, dans notre hôpital Île Africa, nous sommes en mesure d'opérer en moyenne 8 patients par mois. Ces 8 patients qui nous viennent des zones de santé de Goma, comme des zones de santé en dehors de Goma, nous avons Masisi, Rutshuru, Walikale et la zone de santé de Lubero. Et ça, c'est du point de vue local. Et lorsque nous allons en clinique mobile, je suis à mesure d'opérer même plus de 50 malades par clinique mobile. Et ce qui nous donne une moyenne de patients que j'opère tout au long d'une année, c'est dans les 300 à 350 patients. La prise en charge des fentes est gratuite, supportée par Smiletrain. Et actuellement, les chirurgiens aussi sont disponibles, donc l'accessibilité des chirurgiens ne pose plus de problèmes.
Et quel message avez-vous à adresser à la communauté pour prévenir ces fentes labiales?
Alors, le message que nous pouvons adresser à la communauté, c'est que la fente n'est pas un problème aujourd'hui, parce que la prise en charge, elle est gratuite. Alors, il ne faut plus garder les enfants nés avec fente à domicile, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes de fonction, manger, boire et respirer, et de venir à l'hôpital, parce que Smiletrain est disponible pour les accompagner et les prendre en charge.
Docteur Médard Kabuyaya, je rappelle que vous êtes chirurgien à Île Africa, spécialisé dans la réparation des fentes labiales et palatines. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Rosalie Zawadi. Nos remerciements aussi à vous qui venez de nous suivre. Ce journal a connu l'apport de Jules Mister Bilanda, la coordination et de Dieudonné Nyangasa à la technique. Passez une excellente journée.